Passe 2, Annick Chuin.
Ils ont en partage leur histoire depuis des siècles. Nos invités nous la racontent depuis lundi, un dialogue possible et des actions concrètes comme celles que nous allons évoquer aujourd'hui. Bienvenue à vous, bienvenue dans les temps qui courent. Hier, nous parlions des paris du vivre ensemble, manifestations culturelles d'envergure qui ont réuni des artistes, des philosophes et des politiques. C'était fin mars dernier dans la capitale française. Retour en Suisse, à Genève, où Jacques Mourican, pour clore cette série d'émissions autour des relations entre juifs et musulmans, a rencontré le sociologue Reda Benkiran, consultant international et spécialiste de l'information. Reda Benkiran est très engagé dans des tentatives de rapprochement entre les communautés musulmanes, chrétiennes et juives. Il anime depuis 1996 sur l'internet le site Archipresse qui regroupe une agence de presse nord-sud et un centre de documentation. Et il est sur le point de donner un prolongement à cette action avec le concours du réseau de télévision Al Jazeera. Rencontre.
Reda Benkiran, j'aimerais d'abord que nous fassions connaissance. Vous faites partie, si j'entends bien, de cette nébuleuse de gens qui essayent que les lignes bougent un peu et que peut-être le mot communautaire ne soit pas forcément un mot maudit, c'est ça ?
Je ne sais pas si je fais partie de cette nébuleuse, mais je dirais que nous sommes à une époque où il y a une grande confrontation culturelle, un problème de désarroi autour des notions identitaires, d'identité, d'appartenance. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, extrêmement interpellé par la question identitaire, au fur et à mesure, j'ai pris un peu un certain recul et disons que je travaille plutôt à essayer de relativiser, de déconstruire ces questions, disons assez radioactives, assez explosives, le religieux, l'identité. Donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de tensions, d'agressivité liées aussi à la situation au Moyen-Orient ou en France ou ailleurs en Europe sur ces questions. Mais l'idée c'est d'essayer de travailler sur les ponts, les liens entre les gens plutôt que de polariser les différences et ce qui divise.
En qualité de sociologue, hein, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête là à ce point très précis que vous venez de soulever de l'identité. L'identité, c'est un piège.
L'identité, cette notion, elle est assez difficile à présenter. Michel Serres, avec qui j'avais travaillé à l'occasion d'un livre, montre qu'en fait, notre grande erreur, c'est une confusion logique. On confond la notion d'appartenance à la notion d'identité. J'appartiens à un groupe n'est pas la même chose d'un point de vue logique que de dire « je suis je ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel Serres pour ne plus parler d'identité, mais je pense que cette notion d'identitaire apparaît quand il y a un dysfonctionnement du soi. C'est-à-dire, c'est quand le soi ne se reconnaît plus, qu'on est dans des confrontations soi-non-soi, que la notion d'identité apparaît. Donc, c'est une pathologie, je dirais, la notion identitaire.
C'est plutôt le fait qu'il y ait crise qui est en soi une pathologie.
Avec cette crise, on arrive à confondre justement différentes appartenances. On n'arrive pas à penser que nous sommes à une intersection d'appartenance, qu'on peut être du nord, du sud, arabe, juif, de multiplier les appartenances. Or, nous sommes maintenant dans une époque où la communication, l'espace-temps informatique font que nos appartenances peuvent être multipliées quasiment à l'infini. Donc, nous faisons partie de communautés émergentes par le web, etc. Nous devons apprendre à penser cette notion d'appartenance et la notion d'identité. Maintenant, nous sommes dans cette période un peu de crise, donc le côté pathologique, mais il va falloir le dépasser. Donc,
on a déjà attaqué un concept, celui d'identité, pour voir qu'il était un peu à double facette et avec une facette inquiétante. Vous venez de prononcer le mot de communauté. Je me demande aussi si par hasard il n'aurait pas une double facette et ça ne serait pas un autre mot piège.
Quand je disais communauté, je préfère parler en termes d'appartenance. Des communautés, c'est vrai que c'est un mot maintenant qui revient assez souvent en France, débat autour du communautarisme, et on se positionne par rapport à la situation anglo-saxonne, particulièrement en Angleterre. C'est un mot piège, mais disons, parlons en termes d'appartenance et de cercle plus ou moins grand d'ensemble, disons, d'ensemble culturel ou civilisationnel.
Mais appartenance, est-ce qu'il n'y a pas dans ce mot et dans cette idée quelque chose qui rejette ceux qui appartiennent pas quelque part ? C'est toujours le même problème.
Il y a un côté, je dirais, aujourd'hui très fort, quasiment libidinal, du rapport à l'appartenance. Et quand j'étais jeune adolescent, pour moi, c'était extrêmement important de m'identifier à une cause, à une région, à une culture, à un ensemble. Et aujourd'hui, en voyant que plus partout le monde, disons, se polarise autour de, je pense, de fausses notions. Je pense que, voilà, on a remplacé le nationalisme par les religions. Moi, je pense que ça passera et que, voilà, on aura d'autres facteurs de crise ou d'autres polarisations. Cette notion, il faut la relativiser aujourd'hui. Il faut essayer de la comprendre. Et encore une fois, je pense que c'est la communication. Nous sommes une planète maintenant qui communique, unifiée par le monde des nouvelles technologies de l'information. Et c'est là que, peut-être, nous pouvons comprendre que cette démultiplication d'appartenance n'est pas forcément un problème.
Alors, en même temps, vous êtes bien en train de montrer que tout ça, c'est l'histoire de gens qui se construisent, qui ont besoin de ça pour exister. Mais on a envie de vous dire, bien sûr, dans ce cas, est-ce qu'on peut pas avoir, pour se construire, d'autres références qu'un sentiment qui exclut les autres, qui fait du passé une sorte de saga? Est-ce que tout ça n'est pas un peu privatif et quelque part, un peu, parce que ça diminue pas l'individu et sa richesse au milieu de tout ça?
Je pense que non. Je pense que la richesse culturelle, civilisationnelle, les héritages religieux, disons la multiplication dans un même espace un foisonnement de cultures, ce n'est pas forcément en soi négatif. Je souscris bien volontiers à la devise française liberté, égalité, fraternité. Je ne suis pas français, mais je me reconnais tout à fait dans cet énoncé universaliste. Je ne vois pas pourquoi on devrait l'opposer forcément à l'expression de culture ou de civilisation ou de religion. Je suis par contre interpellé par le fait que cet énoncé universaliste, que je, pour ma part, je considère qu'il est peut-être tout à fait une devise islamique. C'est-à-dire les musulmans n'ont aucun problème avec cette notion liberté, égalité, fraternité. C'est une forme d'universalisme, l'islam. Ce que je remarque, c'est que des marges, des banlieues françaises, etc., cette question est remise en avant. La France est en situation de crise et anthropologiquement, c'est assez intéressant de voir que c'est les gens de la marge, que c'est les gens issus de l'ancienne colonisation qui sont en train de faire avancer le débat et que quelque part, les élites françaises sont en crise. Il y a un déficit par rapport à cette notion d'universalisme français. Et ce que je trouve très beau et très fort, c'est que ces mouvements de jeunes expriment ce refus de cette montée de l'inégalité. Ça peut aussi expliquer la montée du Front National. Ça explique aussi, regardez, ces manifestations massives pour les jeunes qui vivent la précarité. Je pense que, moi je suis d'accord, la montée de l'inégalité, c'est le plus grand danger. Et nous retrouvons ça très fort actuellement en France. Et voilà, on essaye de greffer ça sur l'aspect, disons, des différentes communautés religieuses ou confessionnelles, mais je crois que c'est fausser le débat.
Vous disiez liberté, égalité, fraternité. Je peux vous demander quelques commentaires sur laïcité qui, en France, est un peu envahissant?
Je parlerai plutôt de sécularisation parce que nous sommes à Genève, la Suisse est totalement un autre modèle. Donc quand vous voyez la réalité, il y a un enseignement religieux, l'héritage français qui issu des Lumières et de la Révolution française est très très spécifique. Aux États-Unis, on parle plutôt de religion civile. Mais parlons de sécularisation. C'est un phénomène irréversible. Mais là aussi, c'est comme l'énoncé universaliste, liberté, égalité, fraternité. C'est des processus qui sont dévastateurs. Moi, je considère que, par exemple, je reviens d'un séjour au Moyen-Orient, j'ai des liens étroits avec l'Afrique du Nord. Je constate que ce qui se passe dans le monde arabe, à travers cette mouvance islamiste ou post-islamiste, ou ce qu'elle est en train d'être devenue, et à travers tous ces échecs idéologiques, est en train de travailler à une démocratisation et à une forme de sécularisation.
Attendez, là j'aimerais que vous expliquiez, parce que on a un peu l'impression que vous mettez dans un même sac des concepts qui nous paraissent antagonistes.
Tout à fait. Le regain du religieux aujourd'hui est une sortie, mise en avant, mais personnellement, je pense...
Alors, lorsque vous parlez de regain du religieux, c'est en l'occurrence en Afrique du Nord, parce que vous étiez en train de parler il y a un instant d'une sécularisation de la société. Ça n'est pas le jugement que vous portez, je suppose, sur l'Afrique du Nord.
Non, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que cette mise en avant du religieux, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, que ce soit dans le monde arabe, montre que nous sommes à une période, disons, un peu charnière, et qu'il faudrait peut-être être prudent. S'agissant du monde arabe, on est dans une période de transition, et ce qu'on croit être un retour au religieux me paraît plutôt une forme de sécularisation. C'est-à-dire, n'oublions pas que l'arabisme, comme le sionisme, étaient des mouvements séculiers. Et que ces mouvements se sont réalisés et que quelque part ils sont dépassés et que il y a eu un messianisme religieux qui s'est mis en place en Israël. Dans le monde arabe, il y a ce fondamentalisme qui, il y a 20 ans, 30 ans, était très fort, mais aujourd'hui, qui est plutôt, disons, en train de se redéfinir, de se normaliser, parce que il est engagé dans un processus de démocratisation. En fait, le grand enjeu n'est pas de savoir si l'État doit être islamique ou non islamique, c'est des enjeux idéologiques dépassés. Mais sur la réalité, c'est accès au processus démocratique, alternance de pouvoir, etc. Et le grand enjeu, c'est la démocratisation est une forme de sécularisation. Pourquoi je dis cette sécularisation? Parce que cette mise en avant idéologique de tout sacraliser, aussi bien par exemple dans le nationalisme religieux en Israël ou bien dans le monde arabe, le fait de ritualiser à l'excès, Gershom Scholem le disait, lorsque tout est sacré, rien ne l'est finalement. Et on est exactement dans cette situation. Il y avait cette dialectique entre moderniser l'islam ou islamiser la modernité, mais je crois que, y compris les gens de la mouvance islamiste, avancent pour une sécularisation. C'est-à-dire on utilise le religieux, mais parce que nous sommes dans des régimes autoritaires qui sont appuyés par les puissances, disons les chancelleries européennes ou surtout américaines. Et donc l'enjeu est vraiment la démocratisation. N'oublions pas aussi qu'il y a un changement démographique au Maghreb, en Tunisie, Algérie, Maroc, il y a une réforme du statut de la femme. L'expérience turque est très intéressante aussi. Ce sont les islamistes qui font avancer la société. L'Iran, ne parlons pas de l'élection qui a mis en avant, disons, ce président un peu étrange, un peu bizarre, mais la réalité sociale iranienne, clairement, le fanatisme, le fondamentalisme, et derrière, nous allons vers une sécularisation. Acceptons que cette sécularisation prenne des formes différentes que celles que les sillages de l'Occident.
Est-ce que je comprends correctement ce que vous dites en l'interprétant de la façon suivante? Au fond, la religion a servi à un moment donné de passage dans un combat vers plus de démocratie parce qu'il n'y avait pas d'autres points sur lesquels s'appuyer, c'est ça votre idée?
Je veux bien accepter, c'est un peu réducteur, mais disons que c'est ça, le religieux a été utilisé comme un vecteur, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'était aussi le projet, aussi bien dans l'arabisme que dans le sionisme, de réaliser un individu libre, etc., démocratique, etc. Ce projet est en train de se poursuivre. N'oublions pas que ces mouvances qui aliment aussi bien le messianisme religieux en Israël que dans le monde arabe, c'est des populations d'extraction rurale, de deuxième, troisième génération, etc. Donc on est aussi dans une dynamique centre-périphérie. Donc c'est étrange, mais le débat qui se passe actuellement en France entre les questions des banlieues, etc., il y a une parenté avec les problèmes des banlieues de Casablanca, d'Alger, etc. Et en Israël, les villes du sud, les Marocains, c'est eux qui sont, disons, en rébellion contre la périphérie juive qui se révolte contre la domination quasiment ethnique de la centralité israélienne, ashkénaze, etc.
Alors j'aimerais vous demander un autre type d'analyse face à ce constat, que d'un côté, la terre d'islam d'aujourd'hui, qui a été habitée pendant des siècles et des siècles par une diversité ethnique et religieuse, en est de plus en plus privée. Il y a de moins en moins de chrétiens, c'est devenu confidentiel, il n'y a pratiquement plus de juifs. Je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer. Alors qu'en sens inverse, l'Occident, qui était plutôt construit comme un monolithe religieux, au contraire, devient de ce point de vue de plus en plus varié. Ce mouvement vous inspire quoi?
Ça m'inspire d'un côté, une première lecture assez superficielle, un sentiment de nostalgie, de voir que quelque part on a perdu un héritage, justement une certaine diversité culturelle et le fait que les Juifs massivement ont quitté l'Afrique du Nord du fait, disons, des mouvements sionistes, etc., qui rabattaient les gens dans les années 50, 60, a créé un vide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde arabe ne connaît du Juif que... reconnaît le juif que dans le rapport du conflit israélo-palestinien qui s'est durci et donc qui a durci aussi des représentations. Il y a des choses que je regrette. Je ne dirais pas qu'il y a un antisémitisme qui se propage dans le monde arabe et musulman. Je dirais qu'il y a la reprise de clichés antisémites qui sont rediffusés comme cette histoire du protocole des sages de Sion. Donc c'est des choses que personnellement me gênent énormément, mais je pense que c'est superficiel. Je pense qu'il y a moyen de lutter contre. Ce n'est pas un antisémitisme scientifique. Je veux dire, ça n'a rien à voir quand vous voyez avec ce qui s'est passé en Europe. Je veux dire, c'est vraiment superficiel, c'est lié à l'exacerbation du rapport du dominant et dominé dans la situation israélo-palestinienne. Et je pense qu'à travers un travail éducatif, à travers le rôle des mass-médias, on peut essayer d'inverser la tendance. D'ailleurs, c'est un des projets sur lesquels je travaille actuellement, c'est d'essayer de favoriser une sorte de vivre ensemble entre connaissances, mais en utilisant les médias de masse. Donc, on a un petit groupe de chercheurs marocains, palestiniens, turcs, qui sont en train de travailler avec le réseau Al Jazeera pour travailler justement sur un rapport de culture, une meilleure compréhension. Donc, parce qu'il y a une image aussi erronée de l'islam et du monde arabe qui est véhiculée à l'étranger, qui ne correspondit pas à la réalité des faits. Et de la même manière, dans le monde arabe, il y a une perception du christianisme, peut-être faussée par Bush et sa Bible Belt, etc. Et faussée aussi par le conflit israélo-palestinien. Donc l'idée, ce serait aussi de favoriser les ponts, des rencontres, travailler sur l'aspect religieux, peut-être mettre des théologies ensemble. Il y a un potentiel et on compte essayer d'utiliser les moyens de communication. Donc on va commencer très modestement, mais probablement que si Al Jazeera, qui a créé avec Télésour en Amérique latine quelques germes, les premiers germes d'un nouvel ordre mondial d'information avec une dynamique sud-nord, hein, je pense que si Al Jazeera s'engage dans ce processus, l'impact à long terme peut être très puissant et je suis optimiste en ce sens. On peut lutter contre ces rapports.
Alors justement, en jouant sur quoi, en dehors du fait de la puissance d'Al Jazeera qui est connue, mais est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous sondez votre public potentiel, qu'il y a un désir, qu'il y a une volonté, qu'il y a une curiosité tout simplement, ou bien ces mots que nous avons essayé de déminer tout à l'heure, communautarisme, tout ça, c'est quand même assez efficace comme barrière pour paralyser la curiosité?
Les gens sont saturés de politique. Et ce que je disais quand je vous parlais de sécularisation menée au nom de l'islamisme, c'est que l'islamisme a politisé à l'extrême l'islam. Et le messianisme dégradé en politique en Israël aboutit au même résultat. Donc les gens sont saturés de politique et peut-être qu'il faut leur proposer une vision plus esthétique, plus culturelle. Au Moyen-Orient actuellement, c'est très difficile parce que les gens vivent dans une incertitude. L'intervention massive au Moyen-Orient des États-Unis a mis dans un profond désarroi l'ensemble des gens, que ce soit aussi bien au Liban, Syrie, on n'est plus dans un rapport interreligieux, c'est-à-dire on est dans une guerre intra-religieuse et dans les pays du Golfe, il y a des bases militaires américaines. Donc, ils sont vraiment en situation d'occupation. Le Moyen-Orient est vraiment, depuis près d'un siècle, on n'a pas trouvé la solution de vivre ensemble. Les Israéliens aussi sont inquiets, ne savent pas comment se positionner dans ce monde. Il y avait Ehud Barak qui parlait de villa au milieu de la jungle. Donc, je pense que le Moyen-Orient n'est pas prêt pour penser ces questions-là. Donc, c'est pour ça que peut-être les gens venant peut-être de l'Afrique du Nord, de Turquie ou d'Iran ou d'autres, peuvent proposer parce qu'ils ne sont pas sous cette pression du politique, peuvent proposer des projets plus culturels, plus civilisationnels, sortir un peu de cette surreprésentation du politique. C'est vraiment elle qui travaille à la sécularisation, mais je dirais avec aussi un aspect négatif parce que on a instrumentalisé quand même le religieux.
Le bon sens suggérerait que la communauté qu'il est convenu d'appeler beurre, c'est-à-dire des gens d'origine arabe mais nés en Europe, a une sorte de place privilégiée par ces doubles existences, ces doubles racines dans une volonté de dialogue. Est-ce que ce qui paraît là une évidence est fondé? Est-ce que vous trouvez des concours de ce côté-là? Est-ce que vous trouvez tout simplement une envie, effectivement, de jouer les intermédiaires?
Très sincèrement, je pense que les potentiels de rapprochement est énorme entre juifs et arabes. Et quand vous me posez la question où est partie cette diversité du monde arabe, cette diversité, elle existe toujours. Simplement, elle est déployée en Israël, elle est déployée aussi en Europe et particulièrement en France. Donc, nous avons les potentialités de faire revivre ce vivre ensemble qui a existé. Et nous avons aussi, jusqu'à présent vivant, les arts. Nous avons un héritage commun au niveau des arts, la musique, etc., la poésie, un art de vivre, une gastronomie. Donc, tout ça existe aujourd'hui. La langue aussi. Moi, je parlais un dialecte marocain en Turquie avec un Israélien, je l'ai vu pleurer. Ça lui rappelait la langue intime de ses parents, etc. Donc quand vous avez ce rapport charnel, cet affect-là, vous vous rendez compte qu'il y a un potentiel. La question aussi qu'il faut se poser, c'est qui a intérêt à ce que cette alliance quasiment, je dirais même théologique, entre juifs et musulmans, entre arabes et israéliens, qui a intérêt à ce qu'elle se réalise? Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Aussi en France, je pense que le blocage vient plutôt d'une crise de l'élite. On a fait une sorte de je dirais, il faut être prudent, il faut être respectueux pour toutes les personnes qui ont souffert des atrocités, de l'antisémitisme, de la barbarie nazie. Mais il y a eu une sanctification de tous les actes qui ont été commis, les atrocités, par exemple, par rapport à l'Holocauste, au judéocide, et tout ce qui relève du colonialisme, tout ce qui relève disons, des atrocités commises dans d'autres espaces et dans d'autres lieux, est aboli. En faisant cette exception-là, en disant « nous consentons à être extrêmement sensibles à toute atteinte vis-à-vis des Juifs, à toute critique, nous occultons toutes les autres massacres ». Et c'est là où il y a une concurrence mémorielle. Donc je reviens à l'énoncé « liberté, égalité, fraternité ». La concurrence des victimes vient de cette sorte d'exception qui est faite sciemment. Est-ce que c'est une manière pour l'Occident d'absoudre ses crimes passés vis-à-vis? Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a beaucoup de musées consacrés à l'Holocauste. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir que ce n'est pas les Juifs américains qui ont souffert le plus de cette barbarie. C'est comme si, en faisant cet aspect, presque ce culte de la mémoire, de la mort, alors que la tradition juive, la question de la mort est une impureté. La vie, dans toutes les conditions, vaut mieux que la mort. Donc, c'est quelque chose de radicalement nouveau, ce culte de la mort. En fait, c'est un culte sacré. C'est ce que je disais, cette sécularisation. Disons, dans l'espace sécularisé, être juif, auparavant, c'était être lié à une tradition religieuse et vivre sous commandement de la loi. Presque plus personne parmi la diaspora ne suit cette affiliation. Et donc, l'affiliation, c'est un lien symbolique et, disons, de fidélité et de soutien à l'État d'Israël, quels que soient ses dirigeants, quels que soient les actes commis. C'est une manière d'exprimer sa judaïté. Ce n'est plus le rapport au religieux. Je peux vous donner un autre exemple, c'est que la théologie juive a toujours trouvé une interprétation aux cataclysmes qui sont arrivés. Quand il y a eu la sortie de l'expulsion d'Espagne lors de l'Inquisition, la Kabbale a fourni une explication symbolique à ce drame qui a été perçu comme un drame cosmique. Dieu se retire, et c'est un rapport d'émanation et de rétraction. Il n'y a pas de théologie de la Shoah.
Mais alors, je ne veux pas diminuer la souffrance de la période coloniale, certainement pas, mais en même temps, on revient à une idée dont nous avons déjà parlé depuis au début de cet entretien, c'est-à-dire que est-ce qu'un excès de mémoire ne sous-estime pas l'homme dans son présent? C'est-à-dire que il y a comme une sorte de dictature de la mémoire, dictature du souvenir et d'une souffrance que j'accepte tout à fait. Mais attendez, nous ne sommes plus sous la colonisation de la même manière que les Juifs ne sont plus sous la Shoah. Et ils sont autres, et les Arabes sont autres aussi.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ce culte de la mémoire est dangereux et occulte les réalités. Moi, je pense qu'il faut enseigner les choses. Je pense que la seule vertu actuelle de, par exemple, de comprendre les atrocités commises par les nazis, c'est de l'enseigner pour que ça ne se répète plus. Si vous voulez, la Shoah ne dit rien sur les victimes. Elle dit tout de ceux qui ont commis ces atrocités. Et travailler sur le colonialisme, c'est aussi une manière d'évoquer des crimes. Je veux dire, au moment où on fête le 60e anniversaire de l'anniversaire d'Auschwitz, on promulgue une loi qui tendrait à montrer les aspects positifs de la colonialisme. C'est ça qui crée le problème. Moi, je pense qu'il faut simplement traiter ces questions sans concurrence aucune et avec le respect pour les survivants et pour les descendants des victimes de ces atrocités, avec respect, mais que ça s'enseigne et que l'on puisse se saisir de ces questions de manière, disons, avec sans culte de la mémoire, mais de manière avec un certain détachement nécessaire pour une distance critique.
Vous avez, je crois, un projet d'appel, l'appel de Doha. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Non, j'ai évoqué, c'est simplement, on travaille sur un centre de recherche lié à Al Jazeera, et l'idée, un des thèmes d'action est de travailler sur les projets de vivre ensemble et d'entre connaissances. Donc, à l'occasion de cette crise des caricatures, on a voulu réagir et convoquer un certain nombre de personnalités du monde académique, universitaire, mais aussi d'ONG, pour se mobiliser, pour dire simplement que, voilà, essayons de vivre ensemble, essayons d'enseigner l'humanité à l'humanité, et que voilà, plutôt que d'utiliser les mass médias comme des armes de destruction et de distraction massive, essayons d'être des, ce que j'appellerais des acupuncteurs de ce monde, en utilisant ces mass médias pour peut-être médiatiser la connaissance, ou peut-être instruire sur justement sur ces notions qu'on a évoquées, qu'est-ce que c'est que le colonialisme, les méfaits du colonialisme, ou les atrocités commises par les nazis, le génocide indien. Essayons de travailler à l'humanité de l'humanité. Donc il y aura un appel. L'idée, c'est de réunir ces gens fin mai à Doha pour faire une déclaration, et que ce texte circule ensuite.
Je vous rappelle que le sociologue Reda Benkiran anime le site Archipresse. Vous tapez www.archipresse.org, ou alors vous allez sur notre site internet rsr.ch, les temps qui courent bien sûr, où vous trouverez en lien les informations voulues. C'était le dernier volet de notre série autour des relations entre juifs et musulmans depuis Mahomet, une série signée Jacques Mourican avec la collaboration de Gérald Yestan, Mélissa Hertel et Annick Chouin. À lundi, nous ouvrirons une nouvelle série d'émissions autour du thème de l'éducation. Lundi, comment transmettre l'histoire, et bien sûr, quelle histoire? Christian Tchoka sera en compagnie de l'historien François Walter. Merci de nous être fidèles.